interprétée que d'après les morceaux qu'on va interpréter quand on travaille en composition instantanée, c'est-à-dire c'est la critique de ce qui précède qui nous permet de travailler ce qui est ou ce qui va venir. Quand on est en composition préalable et qu'on doit écrire à trois, il y a d'abord des discussions très longues. On se voit, nous ça fait 6 ans qu'on travaille le drame ensemble, ça fait 6 ans qu'on travaille et qu'on se voit régulièrement toutes les semaines. On a besoin d'apprendre quelque chose. Apprendre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant en définitive, et c'est pour ça que les morceaux peuvent paraître un peu hétéroclites les uns par rapport aux autres, parce que en définitive, c'est chaque fois une nouvelle manière de fourbir ses armes. Alors on cherche à travailler, on a fait une pièce de musique électroacoustique ou une autre pièce pour grand orchestre, et en fait qui a été travaillée son par son. On n'a pas pu l'amener ici parce qu'elle est en cours de mixage. Alors, beaucoup, beaucoup parler, et ensuite, on se répartit le travail, tout simplement. Et puis, on se répartit le travail, on le fait, et il y a toujours un regard critique des uns et des autres. Ça demande une énorme confiance, et beaucoup de... j'ai envie de dire, beaucoup d'amour pour la musique que fait l'autre. Et on disait dans le temps, on aime plus ce que les autres font que ce que nous-mêmes, nous faisons, individuellement. Alors, c'est ça qui permet beaucoup...
Moi, je peux apporter quand même un son de cloche différent, parce que, en fait, moi, je marche pas beaucoup sur la confiance ni sur l'amour, et ce serait plutôt sur la, ou disons, vous parlez de confiance, mais la confiance sur les idées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est déterminé les uns avec les autres sur des idéologies, sur des principes. Peut-être même ça peut être des principes physiques, d'ailleurs, enfin, des principes, quoi. On les développe et on les applique après s'être mis d'accord sur ces principes. Et en fait, je crois que c'est ça l'amour. Et la confiance, quoi. C'est pas, je veux dire que c'est pas parce qu'on s'aime, on peut s'aimer d'ailleurs, mais c'est pas parce qu'on s'aime ni parce qu'on a confiance, parce que on a besoin de confiance. Mais c'est plutôt la confiance, elle joue. Parce que on est d'accord, et qu'on est d'accord parce que on a résolu des problèmes, et des problèmes qui ont en effet, je crois, il faut le dire, un rapport avec la politique essentiellement, la sociologie, plus qu'avec l'amour.
Oui, c'est le travail de Rideau, par exemple, où il s'agissait de démystifier beaucoup de choses aussi.
C'est notre métier, la sociologie, parce qu'on est des transmetteurs, on est des gens d'information. Quand on fait de la musique. Arrêtez-moi si je me trompe.
Non, explique.
Simplement plus. Parce qu'on fabrique... avec la musique, on n'a pas tendance à faire de la musique pour de la musique, mais on a tendance à fabriquer, en tout cas, tous les quatre, on peut dire, avec Hélène qui est là aussi, on a tendance à fabriquer des petites fictions. On a pu le remarquer dans les pièces qui sont passées avant. Ces petites fictions, elles racontent des histoires qui ne sont pas forcément... On avait tendance à parler de musique à programme, mais ce qu'il y a de plus intéressant dans la musique à programme, c'est quand l'auditeur fait son programme en définitive. C'est complètement... C'est intéressant de faire de la musique à programme, mais le programme est toujours en deçà de ce que la personne qui entend s'invente, de toutes les stimulations au niveau des... Ça peut être des sentiments, il suffit de pas grand-chose. Mais je crois que aussi.
Tu disais, explique quoi ?
Tu disais, on fait de l'information. Je crois que tu as raison. Hein.
Par exemple, quand sur la précédente pièce sur Crime Parfait, la pièce électroacoustique. Quand on utilise cette radiophonie dont on parlait, ces montages radiophoniques. On s'était dit que l'usage courant était de donner une lecture polyphonique du tissu musical, ce qu'on appelle le paysage sonore. C'est tous les travaux de Cage depuis 1940 et de presque tous les musiciens contemporains qui s'intéressent au problème du bruit, de la musique, du théâtre. Il y a toujours une
ils ont un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, quand on entend un concerto de violon, on entend en même temps le voisin qui tousse, le moulin à café, etc. Et que tout ça...
Ça fait 40 ans que la plupart de nous tous, compositeurs, travaillons sur cette lecture polyphonique du tissu musical. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être en faire une analyse. Et c'est pour, par exemple, on a pensé à faire ce travail pour en fait en dégager une analyse monodique, parce qu'il n'y a aucun mixage sur ce passage, et on pensait qu'ainsi on pourrait en faire apparaître les sens, et non plus avoir un paysage sonore, ce dont personnellement je n'ai absolument rien à faire, mais un paysage social. Et ce qui est intéressant d'entendre dans ces radiophonies, c'est chaque petit bout de 5 secondes, 10 secondes, 3 secondes. Et chargé en sens, on entend des tas de choses, on entend dans quel contexte ça a été fait. Et il m'est arrivé, grâce à ça, particulièrement d'aimer des musiques que je détestais auparavant. En l'entendant comme ça, détaché de son contexte, les unes par rapport aux autres, ça provoque des rencontres et ça donne du sens. Voilà, ça c'est un exemple précis de je pense, de politique.
Philippe, tu te sens proche de cette façon de faire de la musique ?
Ah.
Est-ce que ça ressemble à ce que tu...
Moi, je me sens proche de la façon de qu'ils ont travaillé collectivement, puisque je fais ce genre de travail, en particulier avec mes élèves à Montreuil. Enfin, d'ailleurs, Hélène a fait partie d'un groupe qui s'appelle Armucom, atelier de recherche musicale du conservatoire de Montreuil. Où elle jouait de la contrebasse. Qu'est-ce que ça fait de ta contrebasse, hein?
Elle est trop grosse pour l'amener partout avec moi.
C'est comme mieux que le synthétiseur, il ne l'amène pas. Voilà, c'est trop encombrant.
Non, puis piano, on l'a amené sur bande. Hein. De toute façon,
c'est vrai. Ouais.
Alors, il y a pas une grande différence hein, entre ce qu'on passe sur bande et ce qu'on peut jouer là tout de suite. Il n'y en a même pas.
Alors, c'est ça qui est étonnant, oui. Pour revenir à ta question, ce qui m'intéresse aussi dans l'aspect politique, enfin, ça rejoint ce que tu dis sur l'information, sur la politique, etc. C'est une action politique de faire de la musique de cette façon-là, je pense. À partir du moment où on sait que la musique classique, romantique, etc., est structurée d'une façon démente et que c'est un reflet de la société de l'époque. Bon, avec le grand orchestre symphonique, les musiciens dans la fosse, le chef d'orchestre, bon, etc.
De l'époque, bon. C'est-à-dire la nôtre.
Bon, mais là, je parle de création musicale. si on produit la musique d'une autre façon, c'est-à-dire en cassant cette hiérarchie, évidemment, on fait un acte politique. Et le contenu politique, il n'est pas dans les sons, mais il est, à mon avis, dans la façon de produire une musique ensemble.
C'est-à-dire que s'il n'est pas dans les sons, je me sens quand même un peu mis en question, parce que je voudrais bien
mais il n'est pas que dans les
qu'il
sons,
soit dans les cas, sons, parce que la musique est information en elle-même.
Mais moi, c'est là où je
suis
pas.
Son coup, si
c'est là
où
je ne suis pas, parce que...
Non, mais c'est vrai moi je suis d'accord.
Le son en lui-même, peut-être la musique est une information, oui, quand tu juxtaposes des musiques qui sont bien typées.
Mais c'est ça
etc.
la composition.
Mais non, là je parle du son lui-même. Là. Le son en soi, il n'apporte pas d'information.
Mais le son c'est chargé d'informations.
L'information.
Ce qu'on disait tout à l'heure, un son, il n'est pas pur, il est complexe.
Il donne une information sur le bonhomme qui le produit, quoi.
Pas seulement. Il donne. Bon, moi si je.
Un message, c'est beaucoup dire.
Bon, alors, je donne une information sur moi, ou est-ce que, comme pour l'évangile, est-ce que je j'annonce l'évangile une fois de plus, comme tous les musiciens qui l'ont fait à la suite des uns des autres.
Comme l'évangile, il y a plein d'interprétations.
Oui, non, mais là, il y a l'interprétation. En même temps, mon information, je livre une information. Une information.
Je livre une information d'information, je trouve.
Qui est une réponse qui est bon, un peu plate. Hein. Bon, c'est pas une information, c'est pas un scoop hein, que j'ai fait, mais c'est une information.
On la passera à l'envers aussi, celle-là.
On peut essayer. Hein. Ça serait peut-être bien d'essayer.
Non, ça n'a pas été enregistré. Mais je crois aussi que moi je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que tu dis, Bernard, mais je suis aussi d'accord avec ce que dit Philippe Bourgos, c'est-à-dire quand même, d'où on est parti, c'est aussi sur la méthode. C'est-à-dire que les sons, la première chose qu'on a fait, si on doit prendre les choses dans l'ordre, la première chose qu'on a faite, c'est on était trois compositeurs, trois interprètes, de travailler ensemble, de ne pas avoir en effet des rapports hiérarchiques entre compositeurs, interprètes, chefs d'orchestre, etc. C'était en effet une, C'était une prise de position politique. À partir de là, ça c'était le premier pas, et là, je suis tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où on s'est mis à travailler sur ces sons et à se rendre compte que les sons avaient un sens, c'était aussi important pour nous de se rendre compte de ça que de se rendre compte que les musiciens produisaient une image. La plupart des musiciens oublient complètement qu'ils produisent une image, et quand ils s'en aperçoivent, c'est en général, ça tient du canular, du spectacle, de patronage.
Tu parles d'image visuelle.
Je parle par exemple du théâtre musical. Le théâtre musical est une chose relativement récente, mais très relativement, parce que l'opéra, qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, c'est du théâtre musical. Un drame musical,
c'est
en italien, drame musical, ça se dit mélodrama. Et mélodrama en italien, ça veut dire opéra. Opéra, ça veut dire travail au pluriel. Opus, opéra. Voilà, il y a tout ça là-dedans. Il y a tous ces compositeurs qui ont travaillé sur ce théâtre musical, et en général, c'était souvent sur des choses, ce qu'on appelle des gimmicks, c'est-à-dire des petites formes. Il suffit de souffler dans un tuyau avec un entonnoir au bout en mettant un masque blanc ou en boitant sur la scène pour faire du théâtre musical. Je crois que c'est ce que fait Kagel, par exemple, qui est très à la mode actuellement, qui fait passer des déménageurs sur une scène, ou qui fait jouer en pensant que c'est très fin, et je pense qu'il fait de la politique à ce moment-là. On n'est pas tout à fait d'accord avec lui, mais je pense qu'il fait de la politique au moment où il met un trio sur une scène, où il les fait jouer, mais les instruments dont il joue ne produisent pas de son. Et il appelle ça, je ne sais plus, invasion Tchécoslovaquie ou quelque chose comme ça. C'est de la politique.
Moi, je suis d'accord avec toi, oui. Dans la mesure où la musique est présentée là comme une sorte de prétexte pour faire passer autre chose que la musique. En réalité, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire passer, passer le discours musical en tant que discours musical et non pas la musique en tant que support d'autre chose.
Oui, on n'essaye pas non plus de faire de la musique de fond, de la musique.
Ça ne veut pas dire faire la musique pure, puisqu'ils vont parler de discours, qui n'est.
Il y a deux formes de musique aussi qu'on utilise. C'est la musique d'ameublement où on se moque complètement, où sa fonction est l'ameublement, cher à Satie.
Que l'ameublement.
Bien sûr, oui. Et en même temps, les morceaux qu'on écrit autrement sont des morceaux qui doivent être écoutés comme on lit un roman ou comme on va voir un film. C'est de cette manière-là aussi qu'on travaille. C'est-à-dire que ça demande aussi une certaine attention.
Je pense qu'il vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux que la musique que nous faisons ne demande pas plus d'attention que la musique qui se pratique, qui s'écoute, qui se diffuse. Je crois pas qu'il faut... Moi, je crois pas, non, mais je dis, c'est une prise de position là, que je fais. Je crois pas qu'il faut, comme on dit, cultiver les gens, les endoctriner ou
Il faut leur apprendre peut-être le code, ce code musical qu'on connaît pas ou qu'on connaît très
non,
mal.
Je crois pas. J'ai entendu dire ça il y a pas longtemps aussi, évidemment. Je crois que il faut apprendre tous les codes, c'est-à-dire que tous les codes possibles. Et que la musique doit pas être codée, c'est-à-dire je me souviens, j'ai participé à la présentation de Lupic, la musique, l'appareil de Xenakis, où des gens disaient justement, il s'agit de faire des dessins sur un tableau, ces dessins sont transmis à un ordinateur qui lui-même fabrique des sons à partir de ces dessins, et alors Xenakis, lui, disait les enfants peuvent jouer. Et un journaliste pédagogue, enfin qui est spécialisé dans la pédagogie, disait à ce moment-là, il va falloir leur apprendre les codes pour que justement ils se mettent pas à faire n'importe quoi.
Non, mais j'aimerais bien savoir, par exemple, ce soir, il y a un discours. Alors, les gens peut-être écoutent. Et c'est une façon à eux peut-être de coder votre musique. J'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un, il m'a dit ça, j'entends ça à ma radio, je la ferme.
C'est spécialisé.
C'est trop complexe parce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas une chose habituelle pour notre oreille, parce qu'on entend régulièrement de la variété, de mauvaise qualité ou des choses comme ça, et que ça, c'est un son qui gêne. C'est pas agréable. parle pas pour moi parce que j'adore cette technique, mais c'est ça en fait.
Est-ce que vraiment c'est en donnant les codes?
Je parlais de code dans le sens large du terme, c'est-à-dire.
Apprendre la langue, quoi, tu
veux dire. Oui, c'est ça. Comme on peut apprendre n'importe quelle langue, le cinéma, les gens l'absorbent comme ça sans rien comprendre, et je ne suis pas d'accord.
Bon, d'une part, il y a les langues qui sont enseignées, et d'autre part, il y a la langue qui est parlée. La langue qui est parlée, elle évolue sans qu'on n'y puisse rien. Le dictionnaire de l'Académie est obligé de prendre en compte, à chaque fois qu'il se réunit, des mots, des néologismes, des mots nouveaux, est obligé en fait de rendre compte de l'usage. Les codes ne peuvent se situer qu'après l'usage, pas avant. Les codes rendent compte de l'usage. Nous, on fait de l'usage, on ne fait pas tellement du code. On n'est pas préoccupé par le code, on ne cherche pas à instituer un code.
Mais alors, vous avez parlé de pédagogie tout à l'heure, en parlant d'un spectacle, enfin, entre guillemets, je ne sais pas comment vous appelez exactement, qui s'appelle
oui,
la vidéo,
mais
finalement, les deux choses sont liées, c'est-à-dire que vous avez un côté didactique, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Oui, pédagogie et didactique, c'est deux mots différents, d'ailleurs, mais en fait...
Et un côté écoute de la part du spectateur, c'est-à-dire qu'en vous écoutant, il y a la... une absorption de sons et en même musicaux et en même temps une absorption de sons de verbes, de concepts qui lui permet peut-être d'accrocher.
La musique nous sert aussi à défendre certaines idées. Par exemple, on peut en effet, par exemple dans Rideau, il nous arrive souvent de démystifier certaines pratiques, certaines technocraties, j'ai envie de dire, qui règnent dans tous les discours sur la musique contemporaine, sur la musique classique. Par exemple, il y a le problème de la respiration continue. On entend souvent des musiciens contemporains parler de la respiration continue. Il appelle même aspirotechnie et des mots comme ça, très savants.
Explique un peu ce que c'est.
Bon,
tu sais faire ça?
Bah c'est très... Oui, justement.
Ils savent tous le faire.
Oui, ils savent tous le faire parce qu'en fait, la respiration continue, c'est pas sorcier. En un quart d'heure, n'importe quelle personne peut apprendre la respiration continue. La respiration continue, ça consiste à, disons, l'effet. Ça revient à, par exemple, produire une note avec une trompette, un saxophone, une flûte.
Tenue pendant très longtemps.
Ah oui, on peut tenir une note à la trompette pendant une heure sans avoir l'air de reprendre sa respiration. Bon. Alors, dans ce spectacle Rideau, on essayait, par exemple, de s'expliquer, d'expliquer comment on pouvait faire ça très simplement.
C'est ça, c'est un code, une grammaire.
Voilà.
Mais c'est ça
qui est
important.
Mais en même temps, on l'intégrait bien sûr dans notre travail et on montrait comment...
C'est ce qui manque généralement à l'auditeur ou au gars qui écoute ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il est plus ou moins allergique et il a un recul par rapport à ça. Et c'est cette chose-là que moi, j'ai mal définie en appelant ça un code.
T'as raison, mais en même temps, c'est vrai que... Par exemple, sans connaître de musique, quelqu'un qui ne connaît pas la musique, il peut écouter de la musique classique, enfin Mozart, Beethoven, tout ça. Il ne connaît pas le code, hein, d'accord ? Mais
s'il l'a intégré, malgré lui.
Ça devient presque génétique. Voilà. Depuis
ça devient
le temps
presque naturel.
Le père, la mère, la grand-mère.
Oui, c'est exactement. On nous dit toujours, vous savez, quand même, au clair de la lune, c'est génial quand même comme air. C'est génial parce que les personnes toutes les personnes l'ont entendu à peu près 10 000 fois depuis leur naissance et peut-être même avant, d'après toutes les théories. Bon, alors.
On a le même problème avec les arts plastiques actuellement ou le théâtre contemporain ou la danse.
Absolument.
Merce Cunningham, il n'est pas trop digéré pourtant. C'est vieux, c'est comme Cage à un moment donné.
Vous pouvez donner un exemple là, de comment tu appelles ça, note continue.
La respiration continue. Tu le fais, Bernard?
Je peux faire un exemple, mais oui. C'est pas très radiophonique, hein, parce que ça pourrait durer 2 heures.
Oui, mais si ça, on a le temps.
Bon, d'accord, je veux dire, si ça ne dure pas le temps qu'il faut, c'est
pas. Mais explique comment tu fais peut-être avant.
Mais ça vaut mieux.
Parce que c'est pas évident, a priori.
C'est-à-dire que c'est basé sur le fait qu'on s'imagine, on n'a pas une très grande. En général. On n'a pas une très grande conscience organique. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Derrière la bouche, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. On se sert un peu de la bouche.
Ça dépend pas trop de nous, quoi.
Pour manger, pour les activités sexuelles, pour parler, éventuellement aussi. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en réalité, il se passe, il y a toute une configuration, toute une géographie qui permet, entre autres, parce qu'on a un nez et une bouche, d'inspirer par le nez tout en soufflant par la bouche.
Oui, essayez si vous voulez, mais a priori, ça
peut. Oui, non, mais c'est
toi,
simple.
Tu sais faire, parce que j'ai essayé faire. Un peu, Jean-Jacques m'en avait parlé, franchement.
Non seulement je sais faire, mais je l'enseigne. Alors j'ai été obligé de trouver des trucs pour permettre de l'obtenir. Et le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est de penser qu'on se remplit la bouche, non pas d'air, mais d'eau. C'est-à-dire, si on se gonfle la bouche d'eau, on prend un verre d'eau, puis au lieu de l'avaler, on le garde dans la bouche. Si on prend une grande quantité d'eau, on est obligé de gonfler les joues. Et puis, cette eau-là, si on a envie de faire la blague de faire pipi sur son voisin, on en envoie un petit jet qui sort par un tout petit trou au milieu des lèvres. D'ailleurs, ça fait le tout bruit qu'on entend là. Hein. L'eau n'est pas comprimée parce que les liquides sont incompressibles. Mais elle a tendance à être comprimée, mais comme elle refuse d'être comprimée, elle sort, bon ben, et on peut arriver à doser ce jet d'eau. Et dans le même temps qu'on envoie ce jet d'eau, on peut inspirer. Si on remplace l'eau par de l'air.
C'est pas évident, hein.
Ah si, on peut. Si, essaye. Non, n'inspire pas avant, expire au contraire. Expire. Non, d'abord tu commences par expirer. Non, du calme. Tu commences par expirer. Bon, tu vides tes poumons, mais en apnée. À ce moment-là, tu gonfles la bouche. Et t'inspires.
Je m'entraînerai.
Puisque tu as expiré, tu es obligé d'inspirer, parce que sinon tu vas crever. Alors, tu es obligé d'inspirer. Et en même temps, tu souffles avec la bouche.
Et c'est une question de vue ou de main.
La bouche, elle est fermée, au fond. Parce qu'il y a un organe qui s'appelle le voile du palais, et qui est important, pas seulement pour gonfler, mais aussi pour obturer, en fait c'est une espèce de dispatching, ça envoie l'air soit par le nez, soit par la bouche. Alors on peut inspirer par le nez et la bouche ne participe pas, on peut inspirer par la bouche et le nez ne participe pas, pour la même raison, on peut inspirer par le nez et la bouche souffle, parce qu'on peut stocker l'air dans la bouche et faire sortir. Alors, on peut faire ça avec l'instrument. Ça donne une chose. Comme ça, et puis on peut
essayer, vous verrez que c'est pas simple.
Puisqu'on tient une note, on peut faire toutes sortes de notes différentes, enfin, toutes sortes de sons différents sur une seule expiration, et on peut faire.
Alors, il y a aussi une technique pour chanter. Vous chantez à la fois en expirant et ensuite quand vous reprenez de l'air, vous chantez aussi. Ce qui fait que vous n'arrêtez jamais de chanter. C'est ce que je viens de démontrer il y a 2 secondes.
Il y a un trou entre les deux, non?
Mais non, quand on respire, ça fait
non, non, mais ce qu'elle dit, elle, c'est encore autre chose. Non, tu peux le refaire, s'il te plaît.
Alors, chanter en aspirant et en expirant, ce qui est une autre technique, parce que la voix...
On va le faire, là.
Alors, c'est ce que...
Oh, vous en faites pas, ce qu'on entend, c'est simplement... On n'arrête pas de faire des flashbacks, vous savez. C'est un peu compliqué comme émission, parce que c'est sans arrêt fait de flashbacks, de flash-forward, c'est-à-dire des choses qui vont un peu trop vite en avant. Et là, juste ce qu'on entend très loin derrière, c'est de la musique d'ameublement. Simplement, elle a été composée dans les années 20 par Eric Satie. C'est tout.
Je voudrais parler un petit peu de ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout d'accord quand on parle de... Oh là là, je suis un peu enrouée.
Tenture de cabinet préfectoral.
Quand on parle des codes ou de grammaire, parce que je ne pense pas du tout qu'il y ait effectivement à apprendre ou à donner connaissance d'un code ou d'une grammaire. Je crois que c'est beaucoup plus vaste que ça et que c'est une façon de... Je crois que la musique, comme la peinture, comme... Tous les arts nouveaux, c'est une nouvelle façon de vivre, qui veut dire une façon de regarder, de penser, d'utiliser son corps, de bouger, dont la plupart des gens n'ont pas accès parce que parce qu'on les empêche, enfin on empêche qu'ils aient accès à ça. Bon, si la télévision, par exemple, le samedi ou un jour où il y a une écoute importante, au lieu de passer des émissions de variété avec Mireille Mathieu presque tous les samedis, bon, passait une émission de musique contemporaine.
Plus personne ne regarde la télé.
Je sais pas.
Au début,
c'est
une question d'année. C'est seulement une question d'année.
Bah, alors je dirais que ce serait peut-être une bonne chose. Bon, mais ça c'est autre chose.
Ça se fait tout doucement.
Je crois qu'il faut
tu sais, quand, donner une certaine habitude. Un mot là-dessus sur ce qu'elle vient de dire. Quand Averti a fait ses premières émissions, il avait 2% d'écoute. Et s'il y avait eu à l'époque, comme dirigeant de la télévision, ce qu'on vient d'avoir là pendant quelques années, il n'y aurait pas eu de phénomène de Jean-Christophe Averti, parce que les gens n'auraient pas eu le temps de s'habituer à sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de penser. Bon, 3 ou 4 ans après, tout le monde regardait les émissions d'Averti.
Oui, non, mais je dis que c'est un travail aussi
ça prend du temps.
Mais que ce travail à long terme, il peut pas se faire avec un apprentissage de code et de grammaire. Moi, ça me fait penser quand j'étais à l'école et qu'on nous passait des disques et qu'on nous expliquait que tel passage, ça c'était la mer, ça c'était le mouvement de ceci et de cela. Et ça me gênait beaucoup parce que ça dérangeait d'abord mon imagination, parce que moi j'avais pas forcément envie d'imaginer la mer.
Ça rompait le charme.
Mais moi je ne ressens pas du tout les mêmes choses.
Oui, et que je trouve pas que c'était une façon d'expliquer
code,
la musique.
Un code ou une grammaire telle que je la conçois moi, ou telle que eux la travaillent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous disait sur la mer, les choses comme ça.
Mais ils ne travaillent pas je ne crois pas qu'ils travaillent une grammaire non plus.
Je crois pas d'accord.
Moi, je prétends que si. Ouais. Du fait que c'est plutôt une pluralité de codes, mais que la nécessité du code, ça me paraît difficile de la remettre en question, étant donné que nous fonctionnons, il y a peut-être d'autres façons de penser, mais nous fonctionnons d'une façon symbolique, qui est rattaché donc à des signifiances, et je ne vois pas la possibilité de ne pas adopter des codes. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on propose des codes quand même,
mais une pluralité, ce qui est différent.
Oui, une pluralité.
Je suis pas contre la pluralité, au contraire, je suis pour un pluralisme très important. Mais c'est vrai aussi que si la radio ou la télévision donnait journellement ce genre de choses, aussi bien au niveau plastique, théâtral que musical, ce serait très très important pour tout le monde. Mais ça serait très très difficilement accepté parce que les gens ne connaissent pas, ont un peu peur de ces choses-là.
Oui, c'est un cercle vicieux. Quelqu'un qui n'a jamais lu, n'a jamais envie de lire, et puis ça peut continuer jusqu'au jour où quelqu'un donne le déclic, qui lui le fasse, lui donne le goût d'ouvrir un livre, et puis après les autres vont suivre, quoi. Ils vont s'ouvrir tout seuls, peu à peu.
Peut-être. Mais...
À quand la prochaine émission de ce type-là, Radio G?
Après les vacances, en tout cas.
Ce qu'on pourrait peut-être faire maintenant, c'est... On a parlé de composition collective, alors ce serait peut-être bien d'entendre une composition qui ne l'est pas.
Ah oui,
On pourrait peut-être entendre une des pièces de l'album que Bernard Vité a fait en solo.
Alors, écouter maintenant ce qu'un pauvre paranoïaque peut arriver à faire tout seul. Sans...
Tout seul dans sa cave.
Ouais, c'est ça.
Avec un instrument ou
avec un instrument. Une trompette, mais avec une hanche de saxophone dedans.
possible, ça?
Bah, la preuve.
Ouais, on va voir ce que ça donne. C'est un truc arrangé par toi, ça.
Arrangé, oui. Enfin, c'est pas beaucoup de
bricoler. Hein. Bricoler.
On enfonce un, tout comme je disais tout à l'heure. Et...
enfin, il suffit d'y penser, quoi.
Voilà.
Ça va arriver.
Ah bon?
On attend. C'est toujours Radio G 92.
Avec Bernard Vitel, Jean-Jacques Berger, Hélène Sage, Philippe Bogos.
Ok.
C'était Merlicht, Bernard Vittet, trompette à hanche.
Piccolo.
Trompette piccolo, à hanche de soprano.
Si bémol aigu.
Comment tu fais pour avoir des sons aussi graves avec une trompette, même avec une hanche?
Bah, ça, c'est une question d'acoustique, c'est-à-dire l'hanche de saxophone sur une trompette ne se comporte pas comme l'hanche d'une trompette sur une trompette.
Et que ni comme l'ange de saxophone sur un saxophone, c'est ça?
Ni non plus d'ailleurs comme l'ange de saxophone sur un saxophone. Enfin, qui fait pour des raisons.
Oui, mais quand on utilise un bec de. Quand on utilise une embouchure de trompette sur un saxophone, bon, par contre.
Là, c'est une trompette, elle est courbe, mais c'est quand même une trompette. Je peux faire les sons graves que je fais avec l'ange quand même. Hein. Bon.
Raté.
C'est fondamental.
C'est quand même pas courant, oui.
Elles existent. Hein. L'ange permet de les faire plus facilement avec un son un peu plus flatteur que le pet que je viens de faire.
Jean-Jacques, on va arriver au...
Oui, ça, tout ça a été un peu confus, on a abordé beaucoup de choses.
Cool.
Ça fait longtemps qu'on est là.
Pardon. Jean-Jacques, c'est toujours lui qui a la parole.
Oui, c'est ça. C'est ce que
mais
je voulais
c'est
poser
pas lui qui la prend, c'est lui qui l'a.
C'est lui qui a proposé le programme, c'est lui qui a composé.
C'est pas moi qui ai proposé le programme. Ça fait partie de mes instruments, simplement au niveau de la parole, de l'organisation, des structures d'une émission. Non, absolument pas. C'est concerté.
Porte-parole.
Je suis porte-parole.
On n'a pas chacun toutes les spécialités. Je crois que là aussi, on.
Il m'arrive de jouer de la trompette, mais quand
il y a une certaine idée de la
structuration
de l'entreprise, on ne peut pas avoir toutes les. Et en effet, Jean-Jacques manie le verbe.
Mais tu le manies aussi pas mal.
Oui, je trouve aussi.
C'est un duo tous les deux qui. Pas mal. C'est plutôt dans les graves.
C'est plutôt dans les graves, et lui, c'est plutôt dans les.
Oui, il y a beaucoup d'air. Bernard fait.
On n'entend pas beaucoup la voix d'Hélène, là.
Moi, je manipule le silence. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse.
Oui, surtout,
c'est elle la plus forte.
C'est une femme, naturellement.
Oui, elle chante, elle joue.
Oui, parce que en fait, quand on joue, c'est Hélène qui produit le plus de sons avec sa voix, de nous tous, en tout cas, de nous quatre, avec Francis et Bernard. Oui, bon, ben, voilà. C'est terminé. À la prochaine.
Pas tout à fait quand même, on écoute quelque chose.
On va simplement écouter une petite pièce qui s'appelle « Pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ».
C'est une parole de Guillaume d'Orange. Thank you.
Merci.